C'est quand même fou qu'on ait pas d'intro.
Ouais, on n'a pas d'intro. Bah, en vrai, on s'en fout, non?
On fait sans intro.
Oui, de toute façon, vous n'êtes pas là pour qu'on vous dise bonjour.
Vous êtes là pour qu'on vous dise bonsoir. Ciao. Bonsoir.
Bah ouais, voilà. Ciao, bonsoir, la commu.
Coucou les bonsoiros! C'est oui, c'est votre nouveau nom de communauté. Quelle chance vous avez de vous appeler comme ça! Waouh, waouh, waouh! Eh bien écoutez, aujourd'hui, les petits loulous, on se retrouve pour un épisode qui va être dédié à la partie juridique et fiscale de l'activité de créateur et créatrice de contenu. Pourquoi on fait un épisode plaisir comme ça, hein? un petit moment de douceur, vous et moi? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de créateurs et de créatrices qui se posent beaucoup de questions sur ce qu'ils doivent faire, sur ce qu'ils doivent déclarer, comment le faire, parce que aussi, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les derniers moi, il y a beaucoup de communications qui sont pas toujours très claires pour tout le monde. Et là, je vais faire un gros bisou à mes copains de l'UMIC. L'UMIC, c'est l'Union des métiers d'Internet. Ouh, je suis pas sûre de ce que je dis. L'Union des métiers d'Internet et des créateurs de contenu ? Non, pas du tout, pas Internet. L'Union des métiers des influenceurs et des créateurs de contenu. Et ça, c'est beaucoup plus juste déjà. Je vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est l'UMIC. Renseignez-vous de votre côté. Mais en tout cas, Aura est adhérente de l'UMIC depuis cette année. Et en tant qu'agence, c'est très chouette parce que ça nous permet d'être assez vite dans les nouveautés, dans les échanges, dans les discussions avec les instances de décision sur ces sujets-là. Et donc, on peut transmettre assez vite ces infos-là à nos talents. Et on s'est dit que, quitte à les avoir, autant en faire bénéficier le maximum de monde. Le débat a été long, savoir si on devait faire un épisode ou pas sur ce sujet, on avait peur que ce soit très ennuyant, et à la fois, puisque c'est très important aussi, on s'est dit que ça valait quand même peut-être un peu le coup. Cet épisode, il va être divisé en deux parties. Il va y avoir la partie d'abord juridique. Vous allez normalement pas apprendre grand-chose, notamment parce qu'aujourd'hui, l'ARPP propose le certificat de l'influence responsable qui fait un grand récapitulatif de tout ce que je vais vous dire ce matin, et sûrement mieux que moi, d'accord ? Avec des termes juridiques sûrement mieux que les miens. Toujours pas fait de fac de droit, hein, donc je vais vraiment raconter ça à ma sauce. Bolognaise, c'est ma préférée. Et après, il y aura une partie fiscale. Pareil, je vais mettre des grands warnings dès maintenant. Je ne suis ni comptable et encore moins experte comptable. Donc, je vais vous donner des trucs qui vont être des grandes lignes. Mais je vais prendre plein de précautions parce que c'est pas moi qui ai décidé. Je suis pas experte, donc je vous donne des trucs, mais au pire, quand même, renseignez-vous auprès de quelqu'un de plus compétent que moi sur le sujet. On commence sans plus attendre avec ma partie préférée, ou pas, la partie juridique. Waouh, 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 quel programme! Sachez que à l'image, vous risquez de me voir de temps en temps avec mon téléphone, pour la simple et bonne raison que je retiens pas tout, d'accord? Les termes exacts, je ne les connais pas, donc peut-être que je vais avoir besoin d'un soutien moral, autre que Swan qui m'enregistre actuellement, parce qu'elle est d'un très bon soutien, mais elle ne me dicte pas les phrases comme un souffleur au théâtre. Donc si vous voyez un petit bout de téléphone qui se balade, bah excusez-moi par avance. Donc d'abord, sur la partie juridique, c'est important de rappeler ce que c'est la définition exacte de l'activité d'influence commerciale. Là, vraiment, je vais avoir les yeux rivés sur mon téléphone, parce que je veux pas vous dire n'importe quoi. Donc l'activité d'influence commerciale, c'est toute personne physique ou morale qui mobilise sa notoriété à titre onéreux auprès d'une audience, tout simplement. Donc actuellement, je pense que les gens à qui je m'adresse, vous êtes tous dans ce cadre-là. Jusque-là, pas de surprise, c'est votre métier, vous touchez de l'argent et vous utilisez votre communauté pour faire des collaborations pour des marques. Donc vous êtes dans ce cadre-là, donc tout ce que je déroule ensuite, forcément, ça vous concerne. Dans les nouveautés ou les choses qui n'étaient pas très claires jusqu'à maintenant, il y a un premier point qui est important, c'est que de plus en plus de collaborations sont soumises à des mentions légales obligatoires sur vos contenus. Alors je pense notamment à toute la partie alimentaire sur laquelle aujourd'hui il est précisé et nécessaire que vous ajoutiez des mentions qui sont les mentions que vous voyez à la télé, notamment les mentions manger bouger, manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Ces mentions sont désormais obligatoire quand vous réalisez une collaboration commerciale autour d'un produit alimentaire et qu'il y a transformation, soit dans le produit que vous avez reçu de base, soit dans le contenu que vous allez créer. Ces mentions doivent être visibles, sans action de la part de la personne exposée à votre contenu, dès le premier écran et sur toute la durée de la collaboration. Il en va de même pour les mentions liées à tous les produits autour de l'alcool. Donc si vous avez des collaborations autour de ça, vous devez ajouter que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Maintenant, il y a des précisions aussi sur les interdictions. Vous n'êtes pas sans savoir que plein de produits aujourd'hui et plein de marques sont interdites. Elles n'ont pas le droit de faire des collaborations avec vous. Donc on va les repréciser, mais la liste que je vous donne là n'est pas exhaustive. Renseignez-vous encore une fois. N'hésitez pas à passer le certificat de l'influence responsable. Je n'ai pas de part là-dedans. Je ne touche rien si vous le passez. Mais par contre, encore une fois, c'est quand même beaucoup mieux détaillé que ce que je vais vous donner là. Là, j'ai l'impression que je vais donner des grandes évidences, des choses qu'on sait déjà plus ou moins tous. Mais donc, pour rappel, vous n'avez pas le droit de communiquer sur tout ce qui est autour du tabac et du vapotage. Toutes les pratiques commerciales trompeuses, évidemment. Ensuite, il y a tout un pan aussi sur la médecine esthétique. Donc tout ce qui est procédés, techniques, méthodes qui ont des visées esthétiques. Pour l'instant, il y a des choses qui sont pas tout à fait précisées. Je pense par exemple à des massages de drainage lymphatique ou je ne sais quoi, qui ont des vertus bien-être mais aussi esthétiques. Ça, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Par contre, si vous faites des injections dans les lèvres, le laser par exemple, qui a été un grand sujet à un moment dans l'influence, donc le laser à vocation épilation définitive, c'est aujourd'hui interdit. Sont aussi interdits les marques impliquant des animaux sauvages. Alors là, je fais juste une petite précision, parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de profils qui font de la vulgarisation scientifique, notamment à destination des animaux, de la biodiversité, ces choses-là. Vous n'êtes pas concerné par cette interdiction-là. Je pense plutôt à quelqu'un qui... Oh, allez, on va prendre notre exemple préféré. Nos potes à Dubaï qui vont visiter des faux cirques où, en fait, les gens droguent des lions toute la journée pour que l'influenceur en question puisse prendre sa photo avec le lion. Bon, ça, c'est non. Déjà, d'un point de vue éthique, on aurait dû se dire que c'était non, mais... Désormais, c'est complètement non à l'égard de la loi. Sont également interdits les abonnements à des conseils et à des pronostics sportifs, les jeux d'argent et de hasard. Ces choses-là, on le savait déjà plus ou moins, donc pas de grandes surprises normalement aujourd'hui. Maintenant, il y a toujours et encore un grand débat, qui ne doit pas exister d'ailleurs, sur comment annoncer ces collaborations. Il y a eu des termes qu'on a laissés, puis ensuite on les a enlevés, et en fait on a dit non, c'est plus ça, ça doit être ça. Maintenant, on n'est plus censé se poser la question. Il y a deux termes qui sont autorisés aujourd'hui, c'est publicité et collaboration commerciale. Tout ce que vous proposez autre n'est pas valable juridiquement. Donc, encore une fois, je le redis, on le garde tous bien en tête. Tous avec moi, c'est publicité ou collaboration commerciale. Vous avez la liberté de préciser ensuite de quoi vous êtes rémunéré ou alors si c'est produit offert. Donc typiquement, dans le cadre d'une invitation, collaboration commerciale, obligatoire, et ensuite, c'est à votre discrétion de savoir si vous voulez ajouter que c'est une invitation. Mais vous devez quand même écrire collaboration commerciale avant. Ce terme doit être, encore une fois, comme les mentions d'avant, visible dès le premier écran, sans avoir à dérouler votre wording et que ce soit caché tout en bas. Vous pouvez utiliser les outils dispo sur les plateformes, parce qu'aujourd'hui, ils sont normalement en conformité avec ces termes-là. Donc, je crois que sur Instagram, on est sur collaboration commerciale. Si vous préférez publicité, libre à vous. Mais il faut que ce soit vraiment visible. On vous voit, ceux qui cachent publicité tout en haut d'un écran, en blanc sur un mur beige, c'est interdit. Donc, soyez sûr que quand vous l'affichez, il n'est pas dans une dead zone. Donc, les dead zones, c'est toutes les endroits sur une plateforme où, en fait, il va y avoir des éléments du X, en fait, qui vont venir se rajouter par-dessus, qui vont faire que ce que vous avez mis derrière n'est plus lisible. Donc, assurez-vous que quand vous l'utilisez et qu'une fois que le contenu est mis en ligne, la mention est toujours visible. Et à une taille raisonnable, bien sûr. Si c'est dans une typo minuscule dans laquelle même ma grand-mère avec ses lunettes n'arrive pas à le voir, c'est non. C'est non, c'est non. Vous êtes un délinquant, sachez-le. Que vous dire d'autre sur ce sujet ? Normalement, il n'y a pas vraiment de débat. Pareil, quand vous recevez un produit gratuit, c'est une collaboration commerciale. En gros, dès qu'il y a eu un échange avec une marque, vous êtes dans le cadre d'une collaboration commerciale. Donc il n'y a pas de question à se poser, c'est de l'affiliation, vous êtes rémunéré au fixe, vous n'êtes pas rémunéré, vous êtes 100% dans le cadre d'une collaboration commerciale à chaque fois. Maintenant, si vous avez acheté un labello et que vous voulez en parler, tout va bien, il n'y a pas d'échange avec la marque. Par contre, vraiment, dès qu'on peut retrouver une trace d'une marque qui a désiré vous envoyer quelque chose ou qui a pris contact avec vous, cette mention est obligatoire. Nouvelle mention obligatoire également, et vous avez sûrement dû le voir passer depuis quelques temps, c'est la notion d'image retouchée. Là, ça n'a pas été très clair au début, pareil, mais donc du coup, désormais, dans le cadre d'une collaboration commerciale, si vous utilisez quelconque procédé qui a pour vocation à changer votre physique, vous devez écrire que c'est une image retouchée. Si vous avez juste retouché la lumière ou vous avez appliqué un filtre noir et blanc ou sépia selon votre esthétisme préféré, dans ce cas-là, pas de mention obligatoire sur le fait d'avoir retouché l'image. Par contre, si vous avez, je sais pas, choisi de vous blanchir les dents, même en réalité d'appliquer un filtre dispo sur Instagram, mais qui va déformer votre visage, vous appliquez la mention image retouchée dans les mêmes mentions que ce qu'on a dit avant, donc c'est-à-dire visible, sans action de la part de l'utilisateur ou de la personne exposée, et dans une taille raisonnable. Dans les nouveautés également, j'ai l'impression de vous faire le menu d'un restaurant, c'est excellent. Donc dans les nouveautés, il y a la responsabilité civile solidaire. Sachez que vous, créateurs de contenu, et nous, agence, nous sommes responsables de plein droit à l'égard de l'acheteur, même si nous ne sommes pas en charge de la livraison du produit. Et donc nous devons communiquer, enfin vous en l'occurrence, devez communiquer clairement sur la disponibilité du produit, vous assurer que celui-ci est bien disponible d'ailleurs, donc que sur le site il y a bien du stock quand vous le vendez. Après, si évidemment, suite à votre collaboration, il n'y a plus de stock parce que les personnes que vous avez dans votre communauté ont acheté le produit en masse, c'est pas de votre responsabilité, mais assurez-vous que à un moment, la marque s'assure qu'il y ait des stocks et qu'elle puisse livrer les gens. Si, par exemple, vous collaborez avec une marque qui, de façon notoire, n'a jamais livré ses acheteurs ou je ne sais quoi, vous pouvez être tenu responsable d'avoir mis en avant cette marque et que, potentiellement, des personnes de votre communauté se retrouvent à avoir dépensé de l'argent et n'avoir jamais reçu le produit. Ça, c'est des choses qui sont à ajouter et qui sont importantes. Sur la partie juridique, je vous informe que là, j'ai fait des grandes lignes, qu'il y a plein de détails, notamment sur le travail des enfants, sur d'autres produits qui sont acceptés et, ou pas, avec des mentions particulières. Je pense par exemple, là j'ai oublié de vous dire quelque chose, mais typiquement les compléments alimentaires, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup passer dans les collaborations aujourd'hui, que ce soit pour le stress, pour la pousse des cheveux, pour, je sais pas, régler des problèmes hormonaux. Enfin, il y a beaucoup en général de compléments alimentaires aujourd'hui sur les réseaux sociaux au global. Sachez qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont un peu particulières dans ce cadre-là. Vous n'avez plus le droit de garantir des effets. Donc je vais prendre l'exemple de notre bien connu Luxéol. Vous ne pouvez pas dire Luxéol fait pousser mes cheveux ou grâce à Luxéol je perds moins de cheveux. Vous devez désormais dire que ça contribue à quelque chose. Donc on ne s'engage plus sur des effets, on dit que ça participe à. Et cette limite est un petit peu fine, mais par contre elle est très importante aux yeux de la loi, parce que il est vrai que engager de votre responsabilité le fait que le produit qu'on va vendre, c'est sûr qu'il marche pour faire ce truc-là, non, c'est pas possible. Donc faites attention à ça et renseignez-vous bien. Je vais le dire, je pense, une 12e fois depuis qu'on a commencé. Il est aujourd'hui essentiel de vous renseigner, parce qu'en fait, on considère que nul n'est censé ignorer la loi. Donc que c'est de votre responsabilité de vous informer sur les pratiques commerciales qui vous entourent. Et pour ça, on ne peut que vous conseiller de vraiment passer le certificat d'influence responsable. Il est complet, il a été mis à jour plusieurs fois déjà avec les nouveautés. Il sera sûrement encore mis à jour avec les choses qui arrivent pour la suite. C'est très important de se renseigner sur ces choses-là. Ceux qui sont déjà accompagnés par des agents, je pense qu'ils le savent et potentiellement sont déjà formés. Ça coûte, je crois, un peu moins d'une centaine d'euros et ça vous permet d'être vraiment très en règle sur ce qu'il y a à faire. Il y a beaucoup plus de détails que ce que je viens de vous annoncer là. Donc, encore une fois, passez-le. À passer, je pense que ça prend 2 demi-journées, pas plus, et vous êtes tranquille pour un long moment. On va enchaîner sur la partie fiscalité. Ah bah là, c'est l'argent, ce que je préfère au monde sûrement, sauf quand il s'agit d'en rendre à l'État. Voilà, allons-y gaiement dans ce contexte si bien placé par mes soins. Eh bien écoutez, la grande nouveauté, et je suppose que certains vont le découvrir là, d'autres peut-être vont un peu moins tomber des nues, mais quand même, c'est important de le dire. Dans votre déclaration fiscale 2024, on attend de vous que vous ajoutiez la valeur, le montant, de tous les produits que vous avez reçus durant l'année 2023. Ce qui veut dire que pour tous ceux qui n'ont pas suivi durant l'année, qui n'avaient pas... Enfin, c'est très probable, hein, honnêtement, c'est une notion, la déclaration du gifting, qu'on n'a pas vraiment intégrée dans nos réflexions pendant les collaborations de l'année 2023. Mais du coup... Je sais plus là, au moment où on enregistre et au moment où vous allez écouter ce podcast, je sais pas combien de temps il vous reste pour la déclaration d'impôt à faire là en ce moment, donc sur l'année 2023, mais il va falloir que vous preniez du temps et que tout ce que vous avez reçu durant l'année 2023, vous puissiez, je sais pas, le mettre dans un tableau, quelque chose comme ça, et retrouver quelle valeur avait le produit ou la chose que l'expérience qu'on vous a offert, et la déclarer dans vos revenus. Sont à déclarer absolument tout dès le premier euro. Il n'est pas question de... parce que c'est un livre et que ça coûte pas cher, je le mets pas. Ou parce que c'était une collaboration commerciale et j'avais besoin du produit pour tourner ma collab, je le mets pas. Vraiment, quand je dis que vous mettez tout, c'est tout. Pour l'instant, je crois que personne n'a pris le temps d'aller sur du cas particulier et de se dire qu'effectivement, parfois, il y avait un usage uniquement professionnel. Donc en fait, à ce jour... et ce sera sûrement affiné dans les années à venir pour les prochaines déclarations. Mais là, ce qui a été statué pour cette déclaration-ci, c'est que tout doit être déclaré. Je ne sais pas comment le dire mieux que ça. Vraiment, tout ce dont vous avez bénéficié, tout ce qui a fait l'objet d'un échange avec une marque, vous êtes censé le déclarer et donc, in fine, potentiellement payer des impôts aussi sur ce que vous avez reçu. En fait, je pourrais dire ça, il faut le déclarer, ça, il faut le déclarer, mais quand je vous dis que tout, c'est vraiment tout. Il n'y a pas de cas particulier pour l'instant, on n'a pas affiné dans le détail. Enfin, je dis on, c'est pas moi qui ai décidé, hein, mais il n'y a pas de règles aujourd'hui, il n'y a pas de précision. Par contre, il nous est effectivement remonté qu'il y aura sûrement des précisions dans les mois à venir. Mais pour l'instant, vraiment, tout ce que vous avez reçu de la part de Marc sur l'année, on attend que vous le déclariez dans vos revenus. Pour l'instant, je vais parler des auto-entrepreneurs. Vous avez plein de cas particuliers. Il y a des auto-entrepreneurs, des gens en entreprise individuelle, des gens en SAS, U en général, plus que SAS. Donc les gens en société, rapprochez-vous impérativement de vos comptables. Vous êtes trop de cas particuliers, il y a trop de formats différents. Donc, de toute façon, je n'ai pas les compétences pour rentrer dans le détail aujourd'hui. Par contre, vous êtes tenu, de la même façon que pour les autres, à déclarer toute la valeur du gifting que vous avez reçu, puisqu'on considère que ce sont des avantages en nature. Donc, rapprochez-vous de votre comptable, mentionnez-lui qu'aujourd'hui, c'est une obligation, même si je suppose qu'ils sont censés le savoir, normalement. D'ailleurs, je ne peux que vous conseiller de potentiellement trouver un comptable qui a d'autres clients comme vous, parce que souvent, on voit... des personnes qui sont chez des comptables parce que leur frère ébéniste leur a conseillé d'aller chez ce comptable-là. C'est peut-être des gens très bien, mais imaginez bien que vu le mouvement qu'il y a aujourd'hui et les nouveautés qu'il y a, c'est envisageable, et ça tombe un peu sous le sens, de trouver un comptable qui soit s'est spécialisé sur votre corps de métier, soit à d'autres clients, et donc du coup est obligé de se tenir un peu à jour de ces nouveautés-là, parce qu'en fait il sera plus à même de vous conseiller sur les cas particuliers. Donc vraiment, là ce que je vais annoncer, c'est dédié aux auto-entrepreneurs. Les autres, rapprochez-vous de quelqu'un de plus compétent que moi. De toute façon, à ce jour, même l'UMIC ne communique pas sur ces cas particuliers-là, tout simplement parce qu'on ne peut pas tout anticiper aujourd'hui. Les auto-entrepreneurs, dans votre déclaration 2023, enfin dans votre déclaration 2024 des impôts 2023, ce que vous allez faire, c'est tout simplement, au moment où vous rentrez votre bénéfice, que ce soit dans les BNC ou dans les BIC, vous ajoutez à ce bénéfice le montant de la valeur totale des avantages en nature reçus. Si je clarifie tout ça, en essayant de parler le plus français possible, sur la ligne de votre bénéfice, vous avez déjà le montant des choses que vous avez déclarées normalement, ou alors vous déclarez effectivement tout ce que vous avez perçu sur l'année 2023. Et à ce montant-là, vous ajoutez la valeur de tous les produits que vous avez reçus durant l'année 2023. Et là, on me fait un pouce et on me dit que c'est plus clair. Vous allez voir, ça va forcément faire un delta entre ce que vous avez déclaré à l'URSSAF et ce que vous avez déclaré aux impôts. C'est forcément pas le même montant, puisque vous avez déclaré à l'URSSAF et vous avez payé des cotisations sur uniquement vos prestations de services, donc vos collaborations dans l'année. Et là, aux impôts, vous allez déclarer un montant qui est supérieur, puisque vous avez ajouté la valeur du gifting. Pour l'instant, on considère que c'est pas grave, mais l'URSSAF n'a pas encore communiqué sur ce qu'ils souhaitaient faire de vous. Est-ce qu'ils veulent que vous ajoutez le gifting ou pas dans vos déclarations mensuelles ou trimestrielles? On ne le sait pas encore. Pour l'instant, considérez que vous ne déclarez cette valeur-là qu'aux impôts, mais pas à l'URSSAF. Ce sera encore sûrement des choses à affiner dans les années à venir, mais sur l'année 2023, on accepte et on tolère qu'il y ait ce delta, puisque ça a été fait comme ça, en fait. Donc il faut prendre le problème par un morceau, et ensuite, sûrement, ce sera plus clair pour tout le monde. Mais pour l'instant, on accepte ce delta, et ne vous inquiétez pas, personne ne va venir vous attraper la veste chez vous, dans votre sommeil. C'est normal. Donc, ce qui doit être déclaré, c'est la valeur réelle du bien sur le marché. C'est très facile pour un produit. Dans le cas où vous avez reçu un voyage ou je ne sais quoi, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc là, il faut s'en référer soit au montant que vous trouvez d'un prix public sur Internet, globalement, soit vous en remettre à la marque ou à l'agence avec qui vous avez négocié ce voyage ou cette prestation pour connaître le prix de la valeur de ce que vous avez reçu. Maintenant, on vous invite désormais à, quand vous faites vos contrats pour la collaboration, à bien indiquer le montant de votre rémunération et le montant du produit reçu pour qu'il n'y ait plus de doute sur ces montants à déclarer. Parce qu'en fait, c'est très dur de retrouver parfois quelle valeur à quel, enfin, qu'est-ce que ça coûte de vous inviter en loge pour un concert. C'est très compliqué. Alors que si vous le savez dès le départ et que c'est dans votre contrat, ça va vous faire gagner du temps. Donc insistez bien là-dessus. Désormais, intégrez-le dans votre réflexion dès le moment où vous négociez une collaboration pour vous faire gagner du temps plus tard. Parce que oui, quand je ne sais quelle marque, Live Nation, vous invite à un concert, vous êtes censé déclarer cette valeur-là. Je le redis, tout. Donc tout ce que vous avez... vécu grâce à votre influence, tout ce qui est de l'ordre d'une collaboration commerciale, même non rémunérée, et qui sont des invitations, c'est un avantage en nature, donc vous devez le déclarer. Donc cette partie-là va être beaucoup plus compliquée à retrouver, parce qu'encore une fois, c'est plus simple de se dire « Ok, j'ai reçu ce pull, et ce pull sur le site de la marque, je sais quel prix il coûte ». Pour des expériences et des choses que vous vivez parfois, ça va être, on le sait, hein, un peu pénible de retrouver et de retracer combien ça coûtait de me faire prendre le taxi, puis de me faire manger, puis de m'inviter à tel, ou, à tel hôtel ou à telle expérience. Mais c'est ce qu'on attend de vous. Et faites preuve de bonne foi. Si jamais la personne ne vous a pas répondu en temps et en heure, ou si on vous a donné une tranche qui est un peu bizarre, enfin voilà, on attend de vous que vous ayez faire les meilleurs efforts pour adopter ces nouvelles règles. Qui sont d'ailleurs, en vrai, je vais le dire tout de suite, loin d'être nouvelles, les avantages en nature, ça fait des années que certaines catégories professionnelles les déclarent. Vous, non, c'est un peu passé sous le silence, mais ça tombe un peu sous le sens de le faire aussi. Donc voilà, désormais, il faut appliquer ces règles-là. Ce sera défini un peu mieux dans les années à venir, mais pour l'instant... J'insiste encore une fois là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de débats, il y a eu des choses qui ont changé. À un moment, on disait vert, puis après, on a dit gris. En fait, c'est vraiment 100% de ce que vous avez reçu et de ce que vous avez vécu dans l'année 2023, du 1er janvier au 31 décembre. Et donc, appliquez-vous dès maintenant pour les collaborations de 2024 à vous faire des tableaux ou à vous organiser d'une façon ou d'une autre pour ne pas avoir, au moment de la prochaine déclaration, à tout retrouver. Parce qu'on sait que ça va être long, donc prenez dès maintenant le pli d'être le mieux organisé possible sur ce sujet-là, pour que ce soit beaucoup plus facile pour la suite pour vous, parce que c'est pas une règle qui va disparaître l'année prochaine. De toute évidence, si on l'établit là, je pense qu'on peut se dire que c'est une vérité générale pour la suite de vos activités, quoi. Écoutez, pour la partie fiscale, je crois pas avoir le besoin de vous dire beaucoup plus de choses. On a eu beaucoup de rappels, notamment sur la nécessité pour les auto-entrepreneurs de bien suivre leur TVA pour commencer à facturer la TVA dès qu'ils dépassent les seuils en vigueur. Enfin voilà, il y a eu plein de choses, qui sont beaucoup plus évidentes. Je pense pas que ce soit une grande nouveauté pour quiconque, parce que ça, c'est juste des rappels... des rappels de choses qu'on sait déjà depuis longtemps. La grosse nouveauté, c'est ce que je vous ai dit juste avant sur la déclaration des avantages en nature. Après, sur toute la partie fiscale, pas de grande nouveauté, en vrai. Après, tenez-vous quand même à jour sur tous ces sujets-là. Mais pas d'immense nouveauté, mis à part qu'on nous a bien fait comprendre aussi que les contrôles fiscaux étaient beaucoup plus réguliers désormais sur les métiers des créateurs et des créatrices de contenu, donc que ça nécessite d'avoir une compta bien à jour, bien propre, d'autant plus que désormais les contrôleurs des impôts ont le droit de se créer des comptes sur les réseaux sociaux, de collecter des données sur vous et ensuite de venir toquer à votre porte bien gentiment en demandant des comptes sur des contenus que vous avez pu poster et sur lesquels potentiellement vous n'auriez pas fait de déclaration. Donc voilà, soyez bien au courant qu'on a le droit de venir collecter des infos sur vos réseaux sociaux et ensuite de vous demander la ligne justificative comptable. Bon, bah du coup, ça... Soyez carré, quoi, parce que c'est pas... Vous n'avez pas envie que votre plat de pâtes mangé en Grèce, en vacances, en fait, vous pose des problèmes aux impôts parce que vous aviez fait passer ça en frais professionnels. C'est pas vraiment ce qu'on... Après, si vous mangez des pâtes en Grèce, déjà, c'est un problème. Mais venez, on en parle plus tard. Le problème, ce serait surtout pour le contrôleur des impôts. Donc, soyez le plus carré possible parce que les contrôles arrivent de plus en plus régulièrement. Il y a quand même aujourd'hui des sanctions qui nous ont été remontées qui ne sont pas de l'ordre du détail. Donc, en gros, on a crié très fort qu'on voulait être un métier. Bon, bah, désormais, on nous traite comme des professionnels, c'est bien. Mais il va falloir qu'on le soit jusqu'au bout parce qu'en fait, y a plein de gens qui ont fait des trucs un peu à leur sauce et ça ne plaît pas trop à la France. De toute évidence. Donc venez, on se prend tous par la main, on se met en règle 5 minutes, Puis ça devrait bien se passer pour la suite, quoi. Écoutez, je vais arrêter de prendre un métier qui n'est pas le mien. Je suis ni juriste, ni comptable, donc je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, ne venez pas me les poser. A priori, je n'aurai pas la réponse. Donc adressez-vous à des personnes compétentes pour vous encadrer et vous accompagner sur ces sujets-là, parce que c'est important. Ça peut valoir le coup d'investir sur du conseil pour ne pas se retrouver avec des problèmes par la suite. Ce que le voisin fait ou ce que votre pote créateur de contenu fait, c'est peut-être très bien, mais c'est peut-être très adapté à son cas à lui et pas au vôtre. Donc n'hésitez pas à poser des questions et ça vaut parfois le coup de prendre un rendez-vous avec un comptable pour s'assurer que tout est carré, plutôt que de faire un espèce de grand benchmark de ce que vos potes font et comment ils déclarent leurs impôts et quels formulaires et quelles lignes, si au final, à la fin, vous faites épingler parce que vous avez mal fait les choses. Donc le mot de la fin, c'est vraiment ce que je vous ai dit là, c'est une base de réflexion et ce sont des bribes d'informations. Prenez-les parce que c'est quand même le cas pour beaucoup de monde, ça peut vous concerner, mais peut-être que selon votre cas à vous, il y aura des nuances dans tout ce que je vais dire. Donc renseignez-vous sur ces nuances-là et puis, je vous souhaite beaucoup de courage pour la déclaration d'impôts. On se fait des bisous et je vous dis ciao.
Bonsoir.